la pause maternelle. On se retrouve pour le bonus du témoignage de Déborah, parce que comme à notre habitude, on a été un petit peu beaucoup bavarde. Mais en même temps, c'est un sujet quand même très, très important qui nécessite qu'on en parle, parce qu'il y a encore trop de femmes qui n'osent pas en parler, qui ont du mal à en sortir, qui ont du mal à se faire entendre aussi.
À percevoir aussi le côté vicieux de ces violences et insidieux. C'est-à-dire que ça ne se repère pas aussi facilement. On pose souvent la question aux femmes de pourquoi est-ce que tu n'es pas partie, pourquoi est-ce que tu es restée. Tu vois bien que la violence, c'est la violence, parce qu'on imagine que c'est forcément quelqu'un qui est en colère en face de soi, et on se dit forcément que c'est la femme qui est recroquevillée à côté de la fenêtre ou de son escalier, et puis en fait qui a une marque sur le visage. Mais c'est pas que ça. Il y en a certaines qui n'ont pas de coups visible, mais en réalité à l'intérieur, en fait, l'impact peut être une vraie morsure et déchirure. Et je pense que c'est important aussi d'en parler, de l'impact des violences psychiques sur la santé globale, parce qu'après on peut somatiser, après on peut vraiment se sentir très très mal. Donc ton témoignage, Déborah, est juste, voilà, comme tu le disais hors antenne, important. Parce que tu sens qu'il y a une importance pour toi, mais aussi pour les autres femmes, de parler de ce sujet, et je te suis à 100%, parce que je me suis spécialisée là-dedans, donc c'est quelque chose que, voilà, je pense qu'il est vraiment important d'en parler. Donc on va te laisser poursuivre.
Ouais, je voulais juste rajouter, et dans ton témoignage, en fait, on voit bien la difficulté de se rendre compte de ces violences, parce qu'elles sont progressives, comme tu nous l'as expliqué. Ouais. Enfin, tu te rends pas compte, parce que ça vient tout doucement. Au début, tout est beau, tout est rose. Il y en a que pour toi. Et puis voilà, progressivement, les choses. Et c'est ça aussi qui complique le fait de se rendre compte qu'on est victime de violences conjugales.
Parce qu'il y a la manipulation qui est très très forte. Quoi. Oui. Se sentir choyé comme ça, qui n'a pas envie de se sentir choyé? Puis surtout, qui n'a pas de blessure à ce niveau-là aussi. De se sentir en sécurité, de vouloir être dans un cocon, de vouloir qu'on nous écoute. Voilà, ce côté aussi très paternaliste, de se sentir en sécurité, de se dire, tiens, il y a quelqu'un quand même qui peut prendre soin de moi dans cette grande insécurité qu'est la vie et inconnue qu'est la vie. C'est quand même sympa de se dire qu'il y a quand même quelqu'un qui est là pour soi, qu'on n'est pas abandonné, qu'on n'est pas rejeté.
Puis on en revient à la vie de princesse qu'on nous vend.
Oui,
il y a la vie de princesse, entre guillemets, parce que...
Qu'est-ce que c'est que d'être une princesse? Voilà, c'est pas une princesse Kimberley, mais c'est pas loin.
Oui.
En fait, qu'est-ce que c'est que d'être une princesse, véritablement? C'est des questions qui sont importantes.
Oui, donc pour remettre un petit peu dans le contexte, donc Déborah nous racontait l'arrivée de sa troisième fille, enfin non, de son troisième enfant, qui était une fille avec qui tu étais très fusionnelle, où tu as pu prendre un congé maternité, parce que du coup, tu étais à la maison à t'occuper des enfants et de lui et de la maison. Du congé paternité, qui n'a pas forcément pris la tournure qu'il aurait dû prendre, dans le sens où il n'était pas présent du tout.
Non, c'était plutôt une charge en plus, effectivement. Pour moi, c'était... je n'avais pas d'aide du tout, hein, au niveau de la maison, ne serait-ce que faire le lit. c'est quelque chose de simple, je pense. Mais en fait, non. Je suis rentrée de l'hôpital et j'ai dû, bien sûr, faire à manger pour tout le monde. J'ai pas pu vraiment... Mon corps n'a pas eu vraiment le temps de cicatriser, de se remettre de tout ça.
Okay.
Ça a été très fatigant. Ça a été des manques, dans le sens où je perdais connaissance.
Ah oui.
J'avais une anémie très, très forte.
Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation? Est-ce que tu as déjà cheminé jusque-là?
C'est le moment où les choses commencent à me venir aux yeux, en fait. Je commence à me rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Et je reste pour mes enfants, en fait. Je reste parce que je ne sais pas à quel moment il aura un accès de colère et pourrait s'en prendre à eux. Donc je suis là, je temporise. Je temporise tant que je peux. Je continue à faire tout ce que je peux pour éviter qu'il s'énerve. Donc c'est s'il y a besoin d'anticiper chaque chose, je l'anticipe. Je rentre du travail avec une boule au ventre tout le temps parce que je ne sais pas quelle chose le fera énerver, à quel moment. Et puis, c'est aussi très perfide dans le sens où il va y avoir un accès de colère, une méchanceté, une crise, des paroles très dures, très méchantes, tout pour m'atteindre, très blessantes, des blessures... des mots qui peuvent être très, très dénigrants.
Ouais. Est-ce qu'il élevait toujours la voix ?
Il élevait la voix, il tapait sur les objets, cassait les jouets. Sous peu qu'il y ait un jouet d'un enfant au milieu du salon parce qu'il était en train de jouer deux secondes avant, il arrive, il marchait dessus, il cassait. Hein. Mmh. Pas de scrupule de quoi que ce soit.
Quand je dis ça, c'est est-ce que du coup... Parce que dans ces violences psychiques, il y a aussi ceux qui vont dire « oui, non, mais forcément, il se mettait en colère. » Donc du coup, d'ailleurs, c'est pas se mettre en colère, il ressentait de la colère. Mais voilà, il jouait la colère, en tout cas, à ce moment-là. Et du coup, c'était très, très fort et tambour battant. Mais il y a aussi ceux qui ne crient pas, mais qui du coup vont dire des mots qui sont ultra perçants et percutants et qui vont faire énormément de mal aussi. Et je pense que c'est... tous ces deux aspects, je rentre dans le détail, je sais, peut-être que voilà, ça va être quelque chose qui va vous embêter, mais je rentre dans le détail parce que c'est important de comprendre toutes les voies que peuvent prendre les violences psychologiques aussi. Il y a les personnes aussi qui vont parler très calmement, mais qui vont envoyer des scuds et envoyer des déflagrations pour la personne. Il y a ceux qui vont taper tout de suite dans des choses, il y a ceux qui vont vous taper. Et il y a ceux qui vont vous dénigrer en tapant et et c'est pas, il y en a un pas plus élevé que l'autre, qui est plus important que l'autre et qui est plus violent que l'autre. Tout est violence, voilà. Donc
bien sûr.
Comme dans la chanson J'accuse, faut arrêter de tourner le regard ailleurs.
Oui, exactement. Il n'y a pas de degré dans la violence.
Voilà. Il n'y a pas de degré, non.
C'est sur un même pied d'égalité, malheureusement.
Bien sûr. Et moi, ça a été une violence en trois temps. Mmh. Dans le sens où la première phase, c'est beaucoup de cris, du folklore, de casser les choses, etc. La deuxième, ça va être la phase de retombée où il va être très mielleux. Mmh. Très mielleux, très doucoureux, à chercher un contact physique, je te fais un bisou, tu me pardonnes. Et la troisième phase, ça va être... oui, mais tu n'avais qu'à pas m'énerver. Je me suis mis en colère parce que tu as fait ci, parce que tu n'as pas fait la vaisselle, parce que tu as fait ça, parce que je n'ai pas aimé comment tu m'as parlé, parce que le jouet n'avait pas à être au milieu du salon. Ce genre de choses, en fait. Et là, on se dit, bon, la phase de la colère est passée. On est... enfin, moi, je me sentais tétanisée.
Physiquement ?
Intérieurement, oui. Intérieurement, physiquement, je faisais comme si ça ne m'atteignait pas. Mais bien sûr que ça m'atteignait, puisque c'est la personne qui était dans ma vie. Pour moi... c'est la personne qui est censée me protéger, pas celle qui me fait du mal, en fait.
Ouais. La plus proche de toi, qui est dans la partie intime, et quasiment H24, quoi.
Exactement. Et puis, c'est, pour moi, le couple, c'est un échange, c'est une osmose, c'est une écoute mutuelle, porter l'autre. Mm. Vraiment, c'est quelque chose de positif. Enfin, c'est tous les aspects du couple, pour moi, sont plus positifs que négatifs. Dans le sens où, vraiment, ça doit être bien, ça doit être, tout doit être fluide. Ça ne doit pas être conflictuel, ça ne doit pas être... Donc, je prends sur moi, je m'écrase, je ne vis plus. Je suis là comme un robot, je n'ai plus de féminité, je ne sais plus ce que c'est que... me maquiller ou m'habiller ou autre. Parce que pareil, il a fait le tour de l'armoire.
Pour que tu ne t'habilles pas de manière trop provocante, peut-être pour l'extérieur ou
Exactement. Mais entre-temps, je pense que mon corps s'est mis aussi en protection, en bouclier. Avec les grossesses, j'ai pris du poids. Et ça m'a permis qu'il ne soit plus sur mon dos à 24. Ça m'a permis d'éloigner cette jalousie, puisque bien sûr, je n'en ai pas parlé depuis le début, mais il est très jaloux, très possessif. Et le fait d'avoir pris ce poids, ben, ça me crée quand même une... Je suis une maman. Je suis devenue une maman, je ne suis plus la cible des hommes, je suis là, bien. Et à ce moment-là, ça me convient parce que je me dis... Il ne va pas m'embêter sur ce genre de choses. Puisque
est-ce que lui-même est plus prégnant ou ça va, du coup, il te laisse un peu plus tranquille parce que tu es devenue une maman?
Ah oui, il me laisse plus tranquille. Et puis même moi, d'abord, la priorité, ce sont mes enfants.
Les enfants.
Donc, je ne me regarde même pas dans le miroir. Enfin, je fais une douche 5 minutes par jour, si j'ai le temps, 11h du soir, après avoir récupéré la cuisine. Et voilà, ça va très bien pour moi. C'est le minimum de m'habiller le matin. Voilà. Juste la propreté au minimum, quoi. Donc là, je ne pense plus à moi. Je ne suis plus là. Et arrive justement la période du Covid où je me retrouve enfermée avec lui.
H24,
en fait. Et juste avant, je commence une formation. J'ai un déclic qui me dit « Allez, pense un peu à toi, les enfants sont un peu plus grands. Fais quelque chose qui te plaît maintenant. » Donc, je ne travaille plus avec sa sœur. Hein. Je suis partie. J'en pouvais plus de ce rythme de travail. Et je me dis, bon, ben, j'ai un petit peu de possibilité de retrouver une formation, de faire quelque chose de différent, de pouvoir voir un petit peu ce que j'aime, ce que j'aime faire. Donc, je consulte plusieurs écoles différentes, je fais passer des dossiers et tout. Et un jour, sur un salon, je rencontre du coup une personne qui me parle de l'audiovisuel. Et là, assez rapidement, je commence une formation en audiovisuel qui est super intéressante, je me régale. C'est une classe où c'est vraiment des personnes bienveillantes que je ne connaissais pas. C'était un univers complètement différent pour moi, que je découvre et qui me permet aussi de prendre conscience de certaines choses. Certaines choses qui ne sont pas normales d'accepter. Et là, je me rends compte... On est vraiment un groupe d'amis, donc hommes, femmes, tout mélangé. On travaille sur des supports différents. On est en centre-ville, donc tout est support à créer. Et je me régale vraiment. Puis arrive justement le Covid, donc je me retrouve à la maison un peu enfermée, à ne plus pouvoir sortir. Je suis avec mes enfants. Et là, tout se met en place différemment. Donc là, j'ai beaucoup de violence verbale à répétition. Il a une attitude très, très bizarre.
D'accord.
Très bizarre, ça devient presque insupportable.
C'est-à-dire
C'est des réflexions. Mais ces réflexions à lui ne sont pas simples, claires et linéaires. C'est toujours avec des arrière-pensées. Et d'autres choses. Et justement, pendant cette formation-là, j'ai la prise de conscience de moi-même. Je suis une femme, je veux prendre soin de moi. Dans le passé, j'ai eu des problèmes de dos très, très intenses. Et justement, le mal a dit.
Oui.
Le dos, j'en ai eu plein le dos, on va dire. Et je perds du poids, je commence à me maquiller, je coupe mes cheveux. Je me dis que mes enfants sont un peu plus grands. C'est le temps vraiment de prendre du temps pour moi, puisque ça fait depuis que j'ai 19 ans que je suis maman et que je pense 100% à eux. Et là, bah, c'est la descente aux enfers parce que monsieur devient jaloux, possessif. Mais moi, mon but premier, c'est vraiment de plaire à mon mari. C'est de lui plaire, d'essayer effectivement qu'il m'aime, vu qu'il ne m'aimait pas, il ne me montrait pas d'affection en tant que femme d'une certaine corpulence. Je me dis peut-être en perdant du poids, en prenant soin de moi, bah, ça va réanimer un peu la flamme.
Tu cherchais l'amour qu'il pouvait éventuellement me donner, comme il a donné au départ.
Exactement, je recherchais ça. Je cherchais vraiment.
Comme si c'était ta faute, en fait, qui se comportait comme ça.
Tu réparais.
On en revient à cette culpabilité-là. Tu endosses toute la responsabilité des violences qu'il te fait subir.
Bah oui. Oui, mais allez, sur le moment, je n'ai pas cette conscience-là. Mmh. C'est les choses qui se mettent en place au fur et à mesure, comme on a dit tout à l'heure, le cheminement, les petites briques. Qui se font. Et oui, je me dis, c'est encore ma faute. Je devrais faire plus d'efforts, je devrais faire en sorte qu'il soit fier de moi, qu'il ne serait-ce que me tenir la main dans la rue et pas marcher à 10 mètres devant. Être présente, quoi, montrer que je suis une femme, que je suis là, tout simplement. J'ai le droit d'exister, en fait.
Est-ce que tu te sentais rejetée par lui ?
Oui. Oui, parce que dans cette période-là, justement, il y a eu une soirée où j'essayais de dialoguer avec lui, j'essayais d'avoir mon intimité de couple, en fait. Et je lui ai demandé de m'aimer. Je me suis mise à genoux et j'ai dit, je t'en prie, aime-moi, en fait. Parce que là, pour moi, c'était un appel, juste je lui démontrais mon affection pour lui. Je lui demandais juste d'être aimée.
Oui.
Pour moi, c'était tellement important, parce que pour moi, c'était la vision du couple, la vision de la vie. Et il m'a regardée avec ses yeux froids. Je me suis relevée, je l'ai regardée. Et il me dit, tu es complètement folle. On va te faire soigner, tu as vraiment un problème. Et là, j'ai pris conscience. Ça a été une douche froide, ça a été horrible. Mais en même temps, ça a été bénéfique. Je me suis essuyée les larmes, je l'ai regardée. Et je fais, à partir de maintenant, c'est moi qui vais plus t'aimer. Parce qu'en fait, je veux plus t'aimer parce que toi, tu ne m'aimes pas. Et là, au fur et à mesure du temps, c'est lui qui a commencé à... Vous savez l'expression « fuis-moi, je te fuis »,« fuis-moi, je te suis »,« suis-moi, je te fuis ». Mais en fait, ça a été ça. Puis il a commencé à être jaloux. Et moi, je faisais ma vie.
Quand je parle de l'importance des besoins, est-ce que maintenant vous pouvez comprendre un petit peu l'importance des besoins ? Parce que là, toi, tu avais besoin d'être aimé. Oui. Et lorsque c'est le besoin qui parle, ça peut te mettre en danger. Parce que c'est un besoin de sécurité affective. C'est pour ça que je dis que c'est bien de remonter le puzzle et de remonter jusqu'au bout. Et quand est-ce que tu as été en sécurité ? Quand est-ce que tu t'es senti en sécurité ? Il y a des blessures qui remontent à plus que ce qu'on croit. Et qui font qu'après, on peut agir de cette manière-là avec d'autres personnes, de manière inconsciente. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que vous n'êtes pas responsable. Vous êtes responsable du prochain pas que vous avez fait. Et du coup, toi, tu as fait le choix après de dire non, c'est fini. Mais lui aussi avait des besoins. Il avait besoin d'être suivi, il avait besoin d'être vu, il avait besoin d'être entendu, il avait besoin que tu sois sa femme, que tu sois sa chose. Il avait besoin. Parce que lui aussi, il avait un problème au niveau de ses besoins, au niveau de son lien d'attachement primaire. Il avait un souci là-dessus. Et quand je dis que c'est important de gérer l'environnement et de gérer l'espace éducatif de nos enfants, c'est pas pour rien. Parce que ça peut créer des biais cognitifs à ce niveau-là. Et ça crée des difficultés. Et parler des besoins, parler des émotions, ça peut paraître niais, ça peut paraître idiot, ça peut paraître être un truc genre bon, de quoi elles nous parlent, nos émotions. Parlons de nos émotions, parlons de nos besoins. Parce que voilà, l'invisible est là.
Et ça fera pas de nous des personnes fragiles de parler de nos besoins, au contraire.
Non, c'est ça va nous renforcer.
Exactement, et puis c'est très courageux d'oser parler de nos émotions et de nos besoins.
chaque jour louer le fait que nos enfants puissent parler de leurs émotions de manière très ouverte. Ça va déjà les aider à se construire. Moi, personnellement, c'est pour ça que je fais ce métier-là. Pour que d'autres femmes puissent se sentir assez en confiance et qu'elles s'aiment suffisamment pour dire « Voilà de quoi j'ai besoin, voilà ce que je fais pour moi, voilà comment je me nourris. Oui. » Parce qu'après, je vais pouvoir contribuer, oui, parce que je serai épanouie. Parce qu'on dit que le stress se transmet. Et jusqu'à une heure après, quand on a vu une personne, il y a du stress qui se transmet. Mais le bonheur aussi se transmet. Et lorsqu'on est bien avec soi-même, lorsque du coup, on se sent suffisamment bien pour soi. Je ne dis pas parfaite, je ne dis pas excellente, je dis suffisamment bien avec soi-même, en phase, ancrée. Et bien du coup, on rayonne. On n'est pas là à essayer de prouver quelque chose. On le fait parce qu'on réagit plutôt par nos envies plutôt que par nos besoins. Et ce n'est pas la même chose lorsqu'on est drivé par un truc qui nous fait du bien. Et ça montre la voie aussi pour nos enfants. Merci. Moi encore, je pose toujours cette question, c'est qu'est-ce que vous avez envie comme société pour vos enfants? Parce qu'on est en train de la construire. Mmh. Voilà.
Bien sûr.
Donc, merci infiniment.
Je vous en prie. Et beaucoup d'émotions, beaucoup de choses aussi. Il faut qu'elles soient dites, en fait. Mmh. Il faut qu'elles soient dites. Et, c'est vrai qu'à l'époque, je ne parlais pas. Je gardais tout ça pour moi. Je n'avais pas vraiment d'amis confidentes ou de personnes avec qui je pouvais vraiment discuter. Ouais, parce que pareil, y a l'isolement, hein, l'isolement qui fait beaucoup aussi.
Et c'est ce que j'avais demandé, si vous aviez trouvé une communauté éventuellement italienne là-bas ou...
Je m'étais faite des amis un petit peu sur mon poste de travail. Mm. On sortait un petit peu en couple au début. Et en fait, quand les gens se sont rendus compte de qui il était, on n'était plus invités. Alors je pensais que c'était ma faute. Ah. Mais en fait, je pense plus qu'il avait des choses qui dérangeaient.
Qui repoussaient les gens parce qu'ils voyaient, oui, son comportement vis-à-vis de toi.
Oui. Et il faut savoir là-bas que les femmes ont quand même une place importante. Mm. Et... Dans certaines communautés, la femme, on ne la touche pas. Mmh. Donc lui-même, il se mettait aussi en contradiction avec certaines cultures, certains fonctionnements de
la société dans laquelle il avait grandi.
Exactement.
Donc la blessure était plus profonde que ce qu'on croit aussi.
Oui.
Pour aller à l'encontre de sa propre... culture et des croyances qui sont autour et compagnie.
C'est ça.
Parce que du coup, il t'a plus du tout porté comme un trophée. Il a cassé son jouet.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça.
Qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir? Donc, tu as fait l'audiovisuel et du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, t'as pris la décision de partir ou de... Voilà.
Alors, je n'avais pas pris du tout de décision de partir. Je me suis dit, je reste pour mes enfants, hein. Je suis là pour mes enfants. Et puis, l'amour que je porte à mes enfants et qu'ils m'apportent, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'un homme, en fait. Mm. Je me suis dit, vu au final ce que j'ai eu en émotion, en amour de sa part à lui, je fais sans, c'est pareil, en fait. Ça s'était mis en place, en fait, au fur et à mesure, hein. C'est quelque chose qui vraiment s'était mis en place puisque il n'y avait pas d'amour au final. Et là, ça a été une douche froide, une prise de conscience puisque je lui ai demandé de m'aimer, il n'a pas voulu. Je lui ai dit, c'est pas grave, je m'accomplirai en tant que femme, en tant que mère, pas en tant qu'épouse. Et donc là, arrive le Covid passe, donc c'est très, très compliqué. Très compliqué. Première vague, je tombe malade. Je reprends du poil de la bête et quelques jours après, donc j'enchaîne un peu les formations un peu sur les réseaux sociaux, sur d'autres choses. Je lui dis pas forcément quelle formation je fais. Et en fait, un jour, il me dit, je suis allée à ton école, tu n'y étais pas. Forcément, je n'étais pas à cette école-là, j'étais dans une autre. Et il s'accordait à croire que je l'avais trompé. Que j'étais avec je ne sais qui. Donc ça a été vraiment une excuse, entre guillemets, parce que pour lui, forcément, le fait de le rejeter, c'était que je m'attache à quelqu'un d'autre. Alors que ce n'est pas le cas. Je n'avais pas besoin. Pour être aimée de cette façon-là, je préférais rester seule et me reconstruire.
Autant rester seule que d'être mal accompagnée.
Exactement, rester seule et me reconstruire. Et puis, ma priorité, c'est mes enfants. Et un jour, je reviens donc avec un ordinateur et je me dis, ouais, je vais pouvoir faire un petit peu des vidéos et des choses comme ça. Et lui était dans le garage. Et donc, il remonte. Et là, la descente aux enfers, en fait. Il commence par me bousculer, par me hurler dessus. Il prend les clés de ma voiture. Il prend mon sac à main. Il m'enlève ma carte bleue, il m'enlève mes clés, il enlève tout. Et mon fils arrive derrière lui. Les filles sont déjà à la maison, elles font leur devoir. Elles sont dans les chambres, elles rigolent, elles jouent tranquillement. Et là, il ordonne à mon fils de fermer la porte de la maison à clé.
Est-ce que tu veux continuer ou est-ce que tu veux qu'on s'arrête là un petit peu ?
Non, je peux continuer, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc mon fils, je ne sais pas si ça reste un enfant. Je pense qu'il a fait parce qu'il avait peur de son père, en fait. Mmh. Donc un enfant, on ne peut pas leur tenir compte de tout ça. Il a fait parce qu'il a été obligé, en fait. Mmh. Donc il ferme la maison à clé. Et moi, je me dis, c'est pas normal ce que tu fais. Ouvre-moi la porte, je veux sortir, en fait. Et je reste pendant des heures comme ça, contre la porte, parce que j'ai peur qu'il... J'ai peur de lui, il est là, il hurle, il est convaincu que je le trompe, etc., alors que c'est pas le cas, quoi. Et je suis complètement tétanisée, je me vois encore contre la porte, à vouloir essayer d'ouvrir. Et là, les filles partent dans les chambres, elles ferment les portes. Et il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, il y a juste le silence. Tout le monde est... Les enfants sont dans leur chambre, lui, il s'assoit sur le canapé. Et moi, je suis là en train de pleurer. Et d'un coup, je me dis, en fait, c'est pas normal, faut vraiment que j'appelle à l'aide. C'est pas normal d'être enfermée, en fait. Je me dirige vers la fenêtre et je crie, je hurle. Mais en fait, les voitures passent, on m'entend pas. Donc, il me repousse vers l'intérieur et il ferme la porte. Et là, je vois mon fils qui sort de la chambre et qui me regarde avec de la haine dans ses yeux. Je dis, donne-moi les clés, ouvre-moi la porte, fais-moi sortir. Je le regarde comme ça, vraiment, je le supplie vraiment de pouvoir sortir. Et il est impassible, il me regarde et il s'en va, en fait. Et ça dure plusieurs heures. Donc on est au mois de juillet, ça dure jusqu'à la nuit. Et là, d'un coup, je regarde monsieur et je lui dis « Ta mère aurait vraiment honte de toi, en fait. » Parce que je savais que c'était le seul truc qui pourrait
l'atteindre,
en fait. Et là, j'ai vu une porte de sortie et de dire peut-être qu'il prendra conscience de ce qu'il fait ou peut-être qu'il fera quelque chose, en fait. Et j'ai dit, je vais aller voir ma mère, en fait. Je vais aller voir mes parents. Laisse-moi sortir, je veux partir. Je vais aller voir mes parents, je vais aller me reposer, en fait. Ça a été la seule chose que j'avais en tête, en fait. C'était vraiment partir. Et donc, il appelle mes parents. Puisque j'avais renoué depuis peu avec eux. Ça a été une force, d'ailleurs, de pouvoir renouer avec eux.
D'avoir un autre cercle.
Exactement. Mmh. En fait, les personnes qui m'avaient fait vivre. Elle voulait que mon bien, au final. Et c'était pas ce que je lui racontais.
Ouais.
Et du coup, je vois ma petite dernière. Je dis, allez, viens, on va chez mamie. Alors, elle était toute contente. Ouais, chez mamie, prends mon sac. Je vais prendre ton sac, prendre tes affaires. Et moi, j'avais peur d'aller prendre des affaires parce que je me suis dit, autant, il m'enferme dans la chambre. Comment je fais ? Donc, j'arrive, je rentre à peine dans la chambre et je tire sur un cintre et je prends deux robes comme ça. Je me suis dit, ça ira, je m'en fous. Ouais. De toute façon, ce n'est pas le primordial. Le primordial, c'est que je sorte, je m'en aille. Et donc, à ce moment-là, j'arrive à sortir. Il me redonne les clés de la voiture, les documents, mon sac à main. Il ouvre la porte. Et je m'en vais. Et donc là, je vais direct à la gendarmerie. Parce que je ne peux pas cautionner ça, en fait. S'il fait ça aujourd'hui, demain, qu'est-ce qu'il fera ?
Ouais.
Et à ce moment-là, tes deux grands ?
J'ai demandé à ma fille si elle voulait venir avec moi. Elle m'a dit non. Et mon fils, c'est une porte. Il est glacial, il me regarde vraiment. Je me dis, déjà, peut-être me sauver moi et je les aiderai après. Mais là, dans l'urgence, il fallait que je m'en aille.
Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, ils sont déjà victimes d'aliénation parentale ? C'est comme ça qu'on dit, me semble.
Je pense que oui, parce qu'au fur et à mesure que j'ai fait ma formation, je voyais les enfants qui étaient changeants avec moi. Ça a été aussi progressif. Le garçon, bah, c'est facile parce que lui, il a toujours avec lui. Et le modèle, je pense que c'est ça, son truc favori, quoi, c'est de modeler les autres à son image comme il a envie qu'on soit. Et ma fille, au détour d'une conversation sur l'appropriation du corps de la femme, que la femme avait le droit de décider ce qu'elle voulait pour sa vie, elle m'a fait les mêmes réponses que son père. Donc là, j'avais compris. Et je la regarde et je lui dis, viens avec moi, on va aller chez mamie, on va aller se reposer. Elle me dit, non, je veux pas venir avec toi. J'ai dit, ben, t'es sûre ? Elle me dit oui. Donc j'ai pris ma petite dernière et je suis partie. Et ça a été très dur parce que je savais que je pourrais pas aider les enfants.
Ouais.
Et après, d'un autre côté, à 13 et 14 ans, c'est leur volonté. Je respecte là aussi leur volonté. Et je me dis, faudra que je leur prouve en fait. Et ça, c'est dur parce qu'on est dans une situation où on peut respecter le choix des enfants, mais en même temps, ils n'ont pas toutes les cartes dans leurs mains pour comprendre. Et ce sont des enfants.
En fait.
Oui. Oui.
Donc, bien sûr, je leur en veux pas. Ça reste des enfants. Et donc, je pars. Je pars à la gendarmerie. Donc, c'est la nuit. Il n'est pas loin de 11h du soir ou minuit, quelque chose comme ça. Et on prend une main courante, en fait. Donc, ce n'est pas une plainte. C'est une main courante. Moi, je n'y comprends rien. Hein. C'est la première fois que je suis mêlée à la justice. Je ne comprends rien du tout. Et là, je regarde dans la gendarmerie. On est là, on m'écoute. Mais il y a d'autres choses qui sont prioritaires.
C'est qui prend la main courante ?
Là, de mémoire, je ne sais pas le nom, mais c'est une personne. Ils étaient en patrouille, en fait, et ils sont rentrés pour prendre la main courante et pour repartir en patrouille, en fait.
D'accord.
Et donc, je me réfugie ensuite chez mes parents. On reste une journée, entre guillemets, tranquille, dans le sens où je suis harcelée par téléphone, par SMS, etc. Où c'est des messages... Tu me manques, rentre, on a besoin de toi, je suis désolée, Après, c'est... t'avais pas à m'énerver. C'est... t'es qu'une... ouais. Et je vous passerai les détails.
Ça et va crescendo comme les trois phases...
Mais c'est tout mélangé,
de la violence, mais voilà. Là, il perd, ça l'a désorienté, en fait.
C'est ça. Et le lendemain matin, donc, on se réveille tranquillement. Et il débarque, en fait, dans la cour de chez mes parents. Et donc, il est très brutal avec la voiture, vous savez. Il fait très speed. C'est quelqu'un de très speed, très dynamique, très... virulent aussi dans ses façons de faire, dans ses façons d'être. Et il commence à toquer à la porte très fort, commence à faire le tour de la maison. Et en fait, ma mère l'a vu arriver, elle a eu le temps de fermer les portes et fermer à clé. Et on s'est caché, en fait. Et là, ma fille me dit quelque chose qui résonne toujours en moi, en fait. Ma petite, donc, qui avait à l'époque entre 5 ans et demi, 6 ans, qui me dit « Maman, cache-toi sous le lit, papa, il te trouvera pas. »
En fait, c'est... l'impact.
C'est ça, et puis c'est ma fille qui a voulu me protéger, en fait. Dans ses mots, elle me dit « Cache-toi, il te trouvera pas sous le lit, quoi. »
Puis c'est sous le lit, c'est un emplacement de choix pour les enfants. Parce que c'est là qu'on les trouve pas. Quand ils jouent à cache-cache, c'est là
c'est qu'ils la se cachette. Mettent.
C'est la cachette ultime. Il faut que maman, elle trouve la cachette ultime pour pouvoir être protégée. Je vais lui donner la cachette ultime, en fait.
C'est ça. Et c'est douloureux d'entendre ça de son enfant, en fait.
Bah, parce qu'elle avait compris. Alors c'est bien quand on dit que les enfants sont des éponges, en fait. Ouais, ils sont des éponges à tout. Et ils captent tout.
C'est ça.
Faut pas croire qu'ils ne voient pas. Et dans ce sens-là, elle avait vu, en fait. Elle avait senti. Alors, les plus grands, peut-être, l'avaient senti. Mais du coup, ils se sont mis une autre carapace. Ils se sont fait d'autres choses. Il y a d'autres paramètres dont tu as parlé. Et que je trouve vraiment avec énormément de clairvoyance aussi. Et ta petite avait déjà cette forme aussi de clairvoyance.
C'est ça. Puis elle voyait, elle a vu progressivement ce qui se passait. Hein. C'est une enfant assez... assez intelligente et éveillée. Et c'est vrai qu'elle elle a mis ses mots d'enfant sur une aide qu'elle pourrait m'appeler, me donner, pardon, une solution, en fait. Et donc là, j'appelle de suite la gendarmerie, je les ai au téléphone, on les a en direct, et au bout d'un moment, monsieur s'en va, quoi. Et puis après, l'après-midi... on décide d'aller se reposer, d'aller voir la grand-mère. On mange dehors et au moment de rentrer, en fait, il était sur le parking. Il nous attendait devant la maison. Et là commence une course-poursuite dans les rues de la ville. Mon père conduisait la voiture et on se retrouve donc à la gendarmerie. Et là, c'était horrible, en fait, parce que ça m'a semblé durer des heures, cette course-poursuite, où il essayait vraiment de nous... presque de nous dérouter un peu de la route, de nous...
de vous tuer.
Je sais pas, vraiment. Je sais pas, c'était bizarre, c'était... Il nous collait avec la voiture... Il ne nous rentrait pas dedans, vous voyez, comme dans les films américains ou des choses comme ça. Hein. Mais c'était très, 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 très stressant.
Nous intimider.
Nous intimider, voilà, exactement. Et donc là, continue donc on va à la gendarmerie, pardon, je perds un peu mes mots. On va à la gendarmerie et ils écoutent ce que j'ai à dire et monsieur repart. Repart, son excuse, c'est je l'empêche de voir sa fille, en fait. Et je mets en place aussi le fait de saisir un avocat. C'est dur parce que je suis partie sans rien. Donc, tout retrouver, les documents, etc., c'est dur. C'est dur de mettre en place, de récupérer certains documents légaux pour justifier du livret de famille, etc., par exemple. Et arrive septembre où donc je passe l'été chez ma sœur. Après la dernière visite à la gendarmerie, je me suis dit, c'est plus possible, il faut que je protège mes parents, il faut que j'aille ailleurs. Et je décide d'aller chez ma sœur, une adresse qu'il ne connaît pas. Donc je passe l'été, ma fille passe les vacances avec ses cousins, ça se passe bien. Je me reconstruis, en fait. J'essaye de trouver des solutions, d'y voir clair, de voir ce que je peux faire. Je vois les enfants aussi. Dur, c'est dur. Parce qu'ils sont... j'avais plus l'impression de les reconnaître, en fait. Et arrive septembre, donc j'inscris... ma troisième était inscrite à l'école. Et je sais que c'est la localité où elle va continuer. Donc je la mets à l'école le premier jour. Et là, mon fils... tombe malade. Il a une très grosse fièvre. Donc monsieur m'appelle en pleurs et je me dis, tiens, c'est bizarre puisqu'il avait arrêté de m'appeler et là il m'appelle comme ça d'un coup. Il m'envoie un message comme quoi il fallait que je le rappelle, c'était urgent, il y avait un problème. Donc je le rappelle et là il me dit, bah, écoute, il faut que tu viennes à l'hôpital tout de suite. Le petit, ils savent pas s'il a une méningite, s'il a un cancer, il faut qu'il lui fasse une ponction lombaire, il faut que tu viennes absolument, il faut que tu viennes m'épauler, il faut que tu sois avec moi. Donc ni une ni deux, j'y vais, bien sûr. Et là, ils lui font la ponction lombaire à mon fils, qui est couché sur une table devant moi. Et monsieur trouve l'excuse de parler de notre couple, de savoir si... si je suis avec quelqu'un ou d'autre ou quoi. Enfin, pour moi, c'est ahurissant parce que c'est
parce que là, votre fils est malade, en fait.
Mon fils est malade, c'est la priorité. Pourquoi penser à lui, en fait ? C'est tout se reporter à lui. Tout le temps, lui. Et en fait, je lui ai dit, mais en fait, c'est pas le moment ni le lieu. D'abord, notre fils, en fait. Donc, il découvre que mon fils a une méningite. Et à l'hôpital donc pendant une bonne semaine et les filles sont donc j'appelle mes parents pour qu'ils viennent récupérer les filles. On décide de faire moi je fais les nuits à l'hôpital et monsieur fait la journée. Comme ça permettait aux filles de pas rester seules la nuit et le jour d'aller à l'école. Et donc, la petite dernière qui, justement, commençait à être affectée, j'ai demandé à mes parents de venir la récupérer pour qu'elle soit un peu hors de tout ça, de toutes ces tensions, tout ça. Ils sont partis en vacances avec elle et ça lui a fait du bien, quoi. Et donc, mon fils, je fais les nuits à l'hôpital avec lui. Et monsieur trouve le moyen aussi de me bloquer dans les chambres. Dans la chambre, en fait, trouve le moyen de fermer la porte, de se bloquer devant. Donc,
En étant à l'hôpital.
En étant à l'hôpital, bien sûr. Bien sûr, j'avais averti les infirmières, donc elles venaient très régulièrement. Quand elles voyaient qu'on était là tous les deux, elles venaient, elles passaient. Elles ont été d'une aide incroyable, quoi. Et j'ai levé un peu la voix et ça a alerté un petit peu, donc j'ai pu m'extirper à ce moment-là. Et la fois d'après, quand je savais qu'il allait venir, je restais dans le couloir, en fait, devant la porte, mais côté couloir, pour éviter que ça se passe aussi, qui quoi que ce soit, en fait. Et le dernier jour d'hôpital, je prends ma voiture. Je savais que mon fils allait sortir, donc il allait revenir chez son père. Dans la maison de famille, en fait. Où moi, je ne pouvais plus mettre les pieds, en fait. Exactement. Et à ce moment-là, je retrouve les pneus de ma voiture, qui sont le pneu. qui est lacérée, en fait. Il y a un coup de... Il y a une... Il est crevé. Il y a un trou dedans. On voit que c'est 3-4 cm de longueur, en fait. Je me dis, c'est pas un clou.
C'est pas un caillou, ça.
Non, c'est pas un clou non plus, effectivement. Mmh. Et c'est sur le côté. Donc c'est un endroit... c'est pas en dessous, en fait. C'est sur le côté. Et donc là, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Je vais me mettre dans la voiture et je vais appeler un ami qui, éventuellement, lui, est un peu dans l'automobile et pourra peut-être m'aider ou me dire ce que je peux faire. Donc, j'appelle, il répond pas. Et donc, j'appelle sa femme, qui est une amie. Et là, je l'ai au téléphone et je lui dis, écoute, mon pneu est crevé, comment je peux faire ? Est-ce que ton mari pourrait venir me dépanner ou quelque chose, en fait ? Et monsieur arrive au niveau de ma portière. Donc, mon ex arrive au niveau de ma portière. Et là, tout pimpant, il me dit « Tu vas bien ? Ça va ? Est-ce que je peux t'aider d'une manière ou d'une autre ?» Je lui dis « Non, merci. » J'avais des doutes que ce soit lui, quoi.
Oui.
Et je lui dis « Non, merci, ça ira. Merci, non. » Et je ferme la porte. Et je ferme la fenêtre, puisque j'avais ouvert juste un petit peu. Oui. Et là, je ferme vraiment les clichés à clé. Je ferme complètement la porte. Et là, quelques secondes après, donc je le vois partir dans le rétroviseur. Et il arrive. Et il arrive de manière très virulente. Et il commence à taper dans la portière, à m'arracher la poignée de la voiture, à taper, hurler dessus, en fait. Donc je suis complètement tétanisée, je téléphone à mon ami, enfin j'ai mon ami au téléphone en fait. Et je lui dis, je raccroche, j'appelle la police. Donc je raccroche. Et là, j'appelle la police, donc ils viennent et ils ne le retrouvent pas. Il n'est pas dans l'hôpital, monsieur. Il s'est caché je ne sais où. Et là, je me dis, stop, en fait. Stop, parce que je peux plus. Je peux plus, parce que c'est me réveiller la nuit en sursaut, avoir peur qu'on me fasse du mal. C'est regarder 40 fois dans le rétroviseur, c'est fermer les clés de la maison. C'est
commencer à développer des tocs, à développer des phobies, être dans des crises d'angoisse, des spasmes, des choses comme ça.
C'est ça.
Qu'est-ce que tu fais alors ?
Là, je me dis, il va finir par me tuer là. Là, c'est sûr, parce que on est monté d'un cran encore. On monte toujours d'un cran quand je crois que il va arrêter, il va se calmer. En fait, ça monte toujours d'un cran. Et là, j'appelle ma sœur et je lui dis, j'en peux plus. Et elle me dit, viens chez moi, en fait. Et donc, c'est à 300 km de tout ce qui s'est passé. Et j'arrive ici, donc.
Mmh.
Et là, je me dis, faut que je me reconstruise, faut que j'apporte le mieux pour ma fille. Donc, je récupère ma petite dernière de chez ses grands-parents et on vient là, en fait. Et je me dis, allez, maintenant, il ne sait pas où tu es, tu as un peu de répit, souffle, trouve des solutions, protège-toi. Donc là, j'essaie d'avoir les documents, je trouve un petit emploi, faut que je nourrisse ma fille, il y a des priorités, je l'inscris à l'école. Je rebondis. Je trouvais un appart. Et là, j'ai des signaux d'alerte. J'ai l'impression de voir sa voiture dans la rue. Je me dis, il m'a peut-être retrouvé.
Ce qui est peut-être des fois possible, parce qu'il a dû chercher un petit peu à savoir.
C'est ça.
Où tu en étais.
Et en fait, dans mes demandes d'emploi, j'avais mis la localité. Erreur. En fait, je pensais pas qu'il viendrait fouiller à ce point-là, en fait. Et même lui, de son côté, c'est... je t'embête avec les factures, je change les montants des factures, je te fais tout payer, plein de choses comme ça, en fait. Et je me dis, bon, c'est pas grave, allez, chaque chose, chaque problème va être résolu, on va faire en sorte, au lieu de voir tous ces milliers de problèmes devant les yeux, je me mets la main en face, en fait, et je me dis, allez, un par jour. Une chose par jour, et ça va aller, on va avancer, et je vais trouver des solutions, en fait. Et là, donc, les signaux d'alerte, je fais quand même encore une main courante, ou une plainte, je m'en fais plus. Je crois que c'est une main courante. Juste pour signaler que j'ai peur qu'il m'ait retrouvée, que bien sûr, je ne m'oppose pas à ce qu'il voie sa fille ou autre, mais que ce soit réglementé, en fait. Mmh. On a quelques semaines là, du passage en JAF, donc ça s'est activé un petit peu, et découvre que mon avocate ne pourra pas être présente parce qu'elle est en congé maternité. Donc, comme j'avais fait à distance, je ne savais pas son état. Donc, je me retrouve sans avocat. Et là, arrive un matin, après les vacances scolaires, où je mets ma fille à l'école, comme tous les matins. On arrive un peu à la bourre. Elle a eu du mal à s'endormir le soir. Et je l'amène donc à l'école. Je me retrouve donc sur le parking. Elle descend de la voiture. Elle me donne la main parce qu'elle m'a toujours donné la main. Et là, en fait, je vois trois silhouettes noires avancer sur nous. Ils nous foncent dessus. Je vois pas bien qui c'est. Parce que c'est... ils sont couverts. On voit pas bien. C'est le petit matin, vous voyez. Ouais. C'est en février. Mais moi, je comprends de suite que c'était eux. En fait, je m'en doute. Je suis pas. Je ne les vois pas.
Qui ça?
Mais je me doute que ce soit mon ex, en fait, avec mes enfants. Mmh. Et donc tous les trois nous courent dessus. Et moi, je reviens pas. Je suis tétanisée. Je maîtrise plus mon corps, en fait. Et là, ma petite qui me hurle, maman, elle s'agrippe à moi, elle essaye de que je la protège, en fait. Elle essaye vraiment de que je la serre fort dans les bras. Je la serre fort comme je, plus fort que je puisse, en fait. Et là, il nous arrive dessus. Donc, je suis arrivée à faire quelques pas. Dans ma tête, je me suis dit, je vais courir jusqu'à la voiture, mais mes jambes ne me portent pas, en fait. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et lui, monsieur arrive sur moi, donc il m'empêche de respirer. Comme ça, je lâche la petite. Et c'est un trou noir, en fait. À ce moment-là, je ne vois pas ce qui se passe. Je me sens partir. Je reprends un peu mes esprits. Je suis au sol. Et je commence à hurler parce que je cherche ma fille, en fait. Et je vois mon fils en train de filmer avec son portable en face de moi. Et je vois du coin des yeux, en fait, je vois ma fille qui part avec ma petite dernière. Elles partent en direction d'une voiture. Et monsieur qui suit derrière, en fait. Et le temps de reprendre mes esprits, je me mets à hurler parce que c'est la seule chose que j'ai. C'est ma voix, en fait. Et je lui dis, aidez-moi, aidez-moi. Et là, il y a des mamans qui étaient sur le parking en train de discuter. Vous savez, les horaires de l'école, on a tendance un peu à papoter des devoirs et de ce qui se passe en classe. Et là, il y a des mamans qui arrivent et qui me disent oh, « Qu'est-ce qui vous a tapé? On a vu qu'il vous a tapé. » Mais moi, je ne vois pas. J'étais plus là, en fait.
T'es une dissociation, en fait.
C'est ça. Et là, je me dis « Ma fille. » Donc, je me fais vraiment violence. J'ai les jambes tétanisées et je me mets debout et j'essaye de marcher et j'ai l'impression d'avoir des pierres énormes à mes membres, en fait. Je n'arrive pas, j'ai peur. Et en même temps, je me dis, ma fille, il faut que je l'aide. Et là, j'ai un sentiment d'impuissance, c'est horrible. C'est horrible parce que je ne voulais pas qu'il lui fasse de mal, en fait. Je voulais juste la protéger de ce qu'il pouvait faire parce que j'étais consciente de cette violence psychologique qu'il pouvait faire, en fait. Et il amène... j'arrive pas à arrêter la voiture, j'arrive pas... Je hurle, je m'entends juste hurler. Et j'entends les cris de ma fille qui me dit « Maman, en fait... » Même après toutes ces années, en fait, c'est dur d'entendre maman, en fait. Pendant longtemps, j'ai pas pu passer devant les écoles ou voir des enfants parce que je n'arrivais pas.
Est-ce que ça te rappelait ce moment-là ? On te l'a arraché.
C'est ça.
Est-ce que tu as réussi à revoir ta fille avec toi ?
Non. Ça fait plus de 4 ans que je lutte pour pouvoir l'avoir. Et c'est dur parce que justement, c'est le dur de prouver, de pouvoir...
Est-ce que les femmes qui étaient autour à l'école ont pu témoigner pour toi ?
Je ne sais pas. L'affaire a été classée sans suite assez rapidement. J'ai fait des lettres au procureur, j'ai fait différentes démarches qui ont été classées sans suite. J'ai fait une information préoccupante qui a été fermée assez rapidement. Monsieur ne présente aucun danger pour ses enfants. Presque, entre guillemets, le fait de m'avoir séquestré plusieurs heures, c'est... Oh, c'est juste quelques heures. Ça va, madame, vous n'avez pas été séquestrée des jours. Hein. Ça va, il ne vous a pas non plus tué, quoi. Il ne vous a pas fait plus de mal que ça. J'ai eu quand même 10 jours d'ITI. Mmh. Mais monsieur passe pour la personne parfaite, en fait. Il sait tellement bien orchestrer les choses.
Là, on se rend compte à quel point, en tant que femme, on est infantilisée.
Seule.
Et pas entendue, en fait. Pas entendue, pas écoutée. Tout est, dans ton histoire, tout est minimisé.
C'est ce que j'allais dire, c'est que là, peut-être pour une fois, là, dans l'émission, et puis dans le bonus, pour ceux qui seront arrivés jusqu'au bout, vous avez entendu une émotion. Alors pour ceux qui ont du mal avec les émotions, du coup, bah, ça va peut-être réveiller des choses en vous, ça va peut-être éveiller de la colère, de la frustration, plein de choses. Il y a plein de choses qui vont vous passer par la tête. Avant d'ouvrir la bouche et de prononcer les mots que vous allez dire, vous allez réfléchir très attentivement. Vous allez tourner 7 fois votre langue dans votre bouche. Je vous le demande. Hein. Et vous allez réfléchir et vous mettre à la place de Déborah. Et me dire ce que vous ressentez là au fond de vous, véritablement. C'est un exercice léger, hein. C'est juste comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous avant d'aller juger les autres. Cette femme a été minimisée, on lui a arraché son enfant. Donc si à un moment donné, on n'est pas en capacité de réfléchir à ça, qu'est-ce qu'on fait là ? D'où l'importance du lien.
Et puis on parle de 2 mains courantes et 1 plainte, c'est ça ?
Plus que ça.
Ouais.
Et que ça a été classé sans suite.
Classé sans suite à chaque fois.
Oui. Oui, parce que même au niveau du JAF, la juge à l'époque a fait un regroupement de la fratrie, ce qu'on entend beaucoup. Mmh. Après, effectivement, les enfants ont quand même pas mal d'écart d'âge. Et la petite dernière était toujours avec moi, en fait. Mmh. Ça veut dire que ces 6 ans de vie, je ne l'ai jamais laissé. Et je me retrouve d'un coup donc avec cet enfant qui n'est plus là. Il faut savoir que j'ai toujours vécu pour mes enfants, en fait. J'ai toujours... je me suis oubliée, je me suis perdue.
C'est ce qu'on a entendu dans ton témoignage. Tu es restée pour les enfants. Tu as fait les choses pour les enfants.
Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mes enfants, c'était ma priorité, en fait. Et ce que je comprends pas, c'est son attitude. Parce qu'au final, il ne s'en occupait pas. Il n'est jamais allé à une fête scolaire de ses filles. Il n'est jamais allé à un goûter, à ne serait-ce qu'une sortie pour aller les accompagner à la bibliothèque ou ce genre de choses.
Là, ce qu'on voit au final, c'est qu'il n'a pas fait ça pour ses filles.
Il a fait ça contre toi.
Bien sûr, c'était le seul moyen de m'atteindre. Mais bien sûr, il savait que... Il savait éperdument bien que ma faiblesse, c'est mes enfants. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma force, c'est mes enfants, en fait. C'est pas ma faiblesse, c'est ma force. Pour lui, c'est le moyen de m'atteindre. Mais au contraire, aujourd'hui, je me bats et je me battrai toujours pour mes enfants. Pour que la vérité soit dite. Parce que c'est bien facile de leur raconter... d'aller raconter des choses négatives sur l'autre personne parce que dans le couple ça n'a pas fonctionné. Mais moi je me suis contentée de montrer les faits en fait. Je n'ai jamais parlé mal à mes enfants de leur père.
Ouais.
Ils ont besoin d'un père comme ils ont besoin d'une mère. Si ils ont besoin de deux parents en fait. Si on les fait, on les a. C'est parce qu'on a on a cette...
On imagine la vie ensemble, on n'imagine pas la vie
voilà,
à part.
Voilà, hein. Exactement. C'est pas pour... En fait, chaque personne qui éduque un enfant lui apporte sa vision des choses, du positif, etc. Pourquoi aller raconter des choses négatives sur l'autre, en fait? Ça, moi, c'est quelque chose que je ne cautionne pas. Et... tous aujourd'hui, avec mon combat, mon parcours, en fait, je veux juste que mes enfants sachent la vérité et ils aient ma version. Parce que ma version, ils ne l'ont jamais eue.
Ouais.
Aujourd'hui, ils l'ont.
Voilà.
J'espère qu'ils écouteront.
J'espère aussi.
Et aujourd'hui, donc hors antenne, on parlait de ta reconstruction à travers l'art.
Oui,
est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et puis après on clôturera là-dessus?
Oui. Alors, suite à tout ça, j'avoue que j'ai rencontré quelqu'un. Donc, j'ai décidé de me donner le droit de pouvoir vivre une vraie histoire, en fait. Même si ça a été compliqué parce que je ne m'en sentais pas légitime. Mais j'ai rencontré mon compagnon actuel qui est artiste et qui a su mettre en avant mes capacités et qui a su m'aider à en fait rendre vivant mes émotions et ce que j'ai vécu. Qui a su m'aider et me donner un peu des instruments, me donner des techniques et autres, comme l'art-thérapie, etc. Et aujourd'hui, effectivement, je dénonce dans mon art les violences faites aux femmes. Je dénonce aussi les violences tout court, puisque les violences peuvent être aussi subies par les personnes les plus faibles, en fait. Les enfants, les personnes... les minorités, etc. Je suis engagée aussi pour le cancer du sein, pour Octobre Rose. Pour moi, Octobre Rose, c'est au mois d'octobre, mais pour le cancer, c'est toute l'année, en fait.
Tout à fait.
Et je milite énormément sur la visibilité et la sensibilisation au cancer. J'aurai le plaisir d'exposer justement... en juillet à Villeneuve, okay. à la commune de Villeneuve, où l'exposition, ce sera du coq à l'âne. Et justement, on parlera du cancer du sein, octobre rose qui ne sera pas octobre, mais qui sera en juillet, et novembre bleu qui sera aussi en juillet.
Ok.
Et d'autres thématiques que vous pourrez regarder sur le programme.
Ok. Et donc, du coup, on te retrouve sur les réseaux sous le nom de Francesine Art, c'est ça ?
Francesine Art.
Pardon,
excuse-moi. C'est ça. Pas de souci, c'était mon surnom quand j'étais en Italie. C'est la petite française, la Francesine.
Ok.
Du coup, j'ai mis le lien avec l'art.
Ok.
Ce que j'aime là-dedans, est-ce que je terminerai là-dessus, après je ne vais pas papoter plus, sur le fait que, comme tu le disais, à un moment donné, tu n'arrivais pas à trouver les mots. Et j'aimerais qu'on puisse, je suis désolée, hein, je vais appuyer le truc quand même sur l'art-thérapie, tu en as parlé, le fait qu'à un moment donné, ce qu'on n'arrive pas à dire peut se transformer et s'exprimer d'une autre manière. Parce que tout le monde n'a pas n'arrive pas forcément à formuler et à verbaliser ce qu'il ressent, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à exprimer. Ça veut juste dire que son corps et sa tête a peut-être besoin de le faire autrement. Et moi, je dis souvent qu'il faut arriver à co-créer avec son émotion, avec ce qu'on a vécu, parce que cette expérience-là mérite quand même d'être entendue. Donc, exprimer. Et si ça n'arrive pas à le faire, parce que du coup, vous allez voir quelqu'un avec des méthodes peut-être traditionnelles et que ça ne passe pas, parce que du coup, vous n'arrivez pas à verbaliser, que vous êtes stoppé là-dedans, n'hésitez pas à aller voir les art-thérapeutes, parce qu'on est tout aussi bien formés en psychologie, en psychopathologie, en psychotraumatisme et compagnie, sauf qu'on utilise d'autres supports pour pouvoir vous aider à exprimer les choses, et ça, c'est la chose fondamentale. Merci infiniment.
Merci beaucoup, Déborah.
Avec plaisir.
Vraiment.
Ce bonus aura été plus long que d'habitude, mais c'était nécessaire oui. pour comprendre tout le cheminement qu'il y a derrière les violences conjugales. Pourquoi une femme reste victime pendant des années alors qu'il y en a plein qui lui disent que c'est pas normal, qui lui demandent pourquoi tu restes. Voilà, tu as su nous expliquer tout ce cheminement qui prend du temps. C'est ce qui fait que voilà, le bonus a été plus long que d'habitude. Et on te remercie vraiment pour ton témoignage et d'oser parler de ça et de montrer ton courage aussi face à tout ça et de parler au nom de toutes ces femmes qui sont victimes de violences. Et j'espère que ça aidera un grand nombre de femmes à s'en sortir.
N'hésitez pas aussi à dire pour celles qui arrivent à verbaliser, qui comprennent ce qui passe et que d'autres peut-être vont considérer comme, entre guillemets, chieuse, parce qu'elle parle et qu'à chaque fois, elle reproche. Peut-être qu'en fait, quand elle dit, c'est aussi des cris d'alerte. Peut-être qu'un enfant qui bouge énormément, qui n'en peut plus et qui n'arrive pas à être canalisé, peut-être que c'est un enfant qui vit des violences intrafamiliales. Et ça aussi, il faut le dire, c'est pas juste la personne qui va rester silencieuse et qui va rien dire. Il y a aussi celle qui parle et qu'on n'écoute pas. J'aimerais terminer avec du coup le je t'accuse de Suzanne, parce que je pense que non, ça vaut pas le coup de terminer avec le jingle de la pause maternelle, mais terminer vraiment avec ça pour qu'on puisse réfléchir jusqu'au bout. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'abord il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis à moi aussi, et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir, des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, et c'est bien ça qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu. Je t'accuse, c'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su. Je t'accuse. T'existe pas, pourquoi? pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi. Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire, toi. Ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vie classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Ou faudrait qu'on t'harcèle, justice est ce qu'on doit te faire. Accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. J'assume.